just last the year. Poor little soul, we were never here. My. Staring at the sink of blood and crushed veneer.
Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Passeurs de mémoire. Nous sommes avec Elsa et Roman et nous allons vous raconter l'histoire du camp d'Auschwitz. Au printemps 1940, la Seconde Guerre mondiale a commencé depuis à peine 8 mois et déjà la Pologne n'existe plus. Écrasée entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, elle est occupée, terrorisée. Pour les civils, le quotidien bascule brutalement. Arrestations arbitraires, violences, humiliations deviennent la norme. La peur s'installe partout et personne n'est à l'abri. C'est dans ce contexte qu'un lieu ordinaire va devenir l'un des symboles absolus de l'horreur.
Mais finalement, le 27 avril, lorsque Himmler ordonne l'aménagement d'un camp de concentration à Oświęcim, en Pologne, qui va construire le camp rebaptisé Auschwitz ?
Ce sont les Juifs, requis par les nazis. Le camp reçoit un premier transport des prisonniers polonais le 14 juin 1940.
Auschwitz 1, c'est le camp initial. Très vite, les conditions sont effroyables. Faim, maltraitance, maladie, exécution. Ici, les nazis ont déporté des personnes très différentes.
Mais qui étaient-elles ? Seulement des Juifs ?
Alors, il y avait surtout des Juifs, hommes, femmes et enfants, victimes d'une politique d'extermination. Le camp a aussi enfermé des prisonniers politiques, des résistants, des prisonniers de guerre soviétiques, ainsi que des Roms et des Sinti. D'autres personnes étaient déportées pour le travail forcé ou parce que le régime les considérait comme indésirables. Toutes avaient en commun d'être persécutées par le régime nazi.
L'année 1941 marque une rupture décisive.
Des prisonniers de guerre soviétiques arrivent par milliers à Auschwitz. À l'automne, dans le bloc 11 du camp, les SS testent un gaz insecticide, le Zyklon B.
C'est dans le sous-sol du bloc 11, en septembre 1941, qu'ont été expérimentés les tout premiers gazages au Zyklon B, un pesticide mortel à base de cyanure d'hydrogène.
Pour la première fois, des êtres humains sont assassinés par gazage à Auschwitz. Ce moment marque un tournant majeur. Le meurtre de masse devient une méthode réfléchie, testée, puis reproduite à grande échelle. Les nazis construisent alors un second camp, plus isolé. Son nom, Birkenau. Celui-ci prend part à la solution finale. Il ne s'agit plus seulement de détenir ou de punir, mais de tuer massivement l'ensemble des Juifs.
À leur arrivée, les déportés sont sélectionnés. Ils se dirigent vers les médecins SS, qui, d'un geste de la main, les jugent aptes au travail ou non. En quelques secondes, sans explication, sans appel possible, le destin des déportés est scellé. Les vieillards, les malades, les infirmes, les mères avec enfants, les femmes enceintes, les enfants en bas âge et les personnes jugées non nécessaires à l'économie de guerre sont destinées au gazage immédiat.
On descend des trains, on est tous mélangés, hommes, femmes, enfants, et cinq par cinq, on passait devant une rangée d'officiers qui vous regardaient et d'un geste, toi tu vas à droite, toi tu vas à gauche. Petit à petit, eh bien, le groupe où j'étais s'est formé. Moins de 15 ans, chambre à gaz. Plus de 45 ans, chambre à gaz. Et moi, encore maintenant, ça me fait un choc. Ces gens en bonne santé, on les a assassinés. Et tout ça, parce qu'on est juifs.
Et où est-ce qu'on les conduit ?
Dans des bâtiments présentés comme de simples douches. En réalité, elles y sont gazées et asphyxiées avec le Zyklon B. Les corps sont ensuite brûlés dans des crématoires ou dans des fosses afin d'effacer les traces du crime.
J'ai entendu parler des Sonderkommando. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ?
C'est une équipe de prisonniers chargée d'évacuer les corps des victimes vers les fours crématoires. C'est un travail extrêmement dur à supporter mentalement. Philippe Müller décrit « Notre tâche consistait à sortir les corps des chambres à gaz, à leur arracher les dents en or et à les brûler. Ces prisonniers vivaient avec la certitude qu'eux-mêmes seraient régulièrement éliminés pour ne laisser aucun témoin. Cette organisation montre le caractère industriel et planifié de l'extermination. »
En 1943, le complexe compte désormais trois camps principaux et des dizaines de sous-camps tels que Trzebinia. Auschwitz I était composé d'un centre administratif et un lieu d'expérience médicale et de torture. Auschwitz II Monowitz était quant à lui un camp de travail forcé, principalement pour l'usine chimique IG Farben.
Lors de leur arrivée, les hommes jugés aptes au travail étaient séparés des femmes et répartis dans des zones distinctes du camp. La séparation provoque dès l'arrivée un traumatisme immense. Les familles étaient déchirées suite à la perte brutale des proches.
Mais qu'arrive-t-il aux prisonniers ?
Ils sont dépouillés de leurs affaires personnelles, rasés, tatoués et contraints de porter des uniformes rayés. Le tatouage remplace le nom. À partir de ce moment-là, les prisonniers ne sont plus appelés que par un numéro. Beaucoup témoignent que c'est à cet instant précis qu'ils comprennent qu'ils ont cessé d'exister en tant qu'individus.
Quel était votre numéro à Auschwitz ?
58319. 58319.
La violence n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Les détenus sont humiliés, privés de leur identité. Pour beaucoup, tout se joue en quelques minutes. Primo Levi, déporté à Auschwitz, raconte. Ici, on comprend tout de suite que l'on n'est plus un homme. À peine descendus du train, les déportés perdent leur nom, leur passé. Ils ne sont déjà plus que des corps dont le camp va décider l'usage.
Commence alors une vie dans des conditions extrêmes. Faim, maladie, violence permanente. Chaque jour devenant une lutte pour survivre où la moindre faiblesse peut être fatale.
Les prisonniers sont par la suite entassés dans des baraquements en bois ou en briques, souvent sans fenêtres ni chauffage. Ils dorment sur des paillasses infestées de parasites, comme les poux. Ils sont plusieurs par lit. La nuit n'est pas un repos. Les corps sont serrés, la maladie omniprésente, les gémissements constants. Elie Wiesel se souvient. Dormir était presque impossible. On avait peur de ne pas se réveiller. Les toilettes sont insuffisantes et insalubres. La ration quotidienne est composée d'un peu de pain noir, d'une soupe claire et parfois d'un ersatz de café.
Et cela permet-il de survivre au travail forcé ?
Pas du tout. Ça représente moins de 1000 calories par jour. La faim devient une obsession permanente. Elle efface toute autre pensée. Certains détenus racontent qu'ils passaient leur journée à parler de nourriture, à rêver de pain, pour survivre mentalement.
Le matin, on avait dans une gamelle une boisson chaude, c'est-à-dire une infusion. Enfin, on appelait ça du thé, je ne sais pas ce que c'était. Et puis à midi, on avait la soupe sur le lieu de travail. Donc on s'arrêtait à midi et on ramenait de la soupe dans des tonneaux. On nous distribuait la soupe. Quand on avait de la chance, on avait le fond du tonneau. Quand on n'avait pas de chance, on avait le dessus. Et à ce moment-là, c'était plutôt de la flotte.
La vie quotidienne à Auschwitz est marquée par la souffrance, la peur et la brutalité.
Mais il n'y a pas également des maladies ?
Si, elles se propagent très rapidement dans le camp. Le manque d'hygiène, la promiscuité, la sous-alimentation et l'épuisement affaiblissent les organismes. Le typhus, transmis par les poux, devient l'une des principales causes de mortalité à Auschwitz. La dysenterie, la tuberculose et d'autres infections font également des ravages. Être malade à Auschwitz, c'est être condamné. Les prisonniers affaiblis sont souvent jugés inaptes au travail et envoyés à la sélection suivante. Beaucoup témoignent que tomber malade équivaut à recevoir une sentence de mort différée. Elie Wiesel écrira plus tard que « la maladie faisait plus peur que les coups », car elle signifiait la fin de tout espoir.
Mais comment se passe une journée de déporté ?
Les déportés sélectionnés pour le travail sont donc exploités comme une main-d'œuvre forcée. Leur journée, auquel chacun prend part, commence très tôt, vers 4h du matin, par un appel interminable sur la place du camp, quel que soit le temps. Des prisonniers s'y effondrent, meurent debout. Mais les rangs doivent rester immobiles. Le corps ne compte plus. Puis les prisonniers marchent parfois plusieurs kilomètres, jusqu'aux usines ou aux chantiers.
Combien de temps dure le travail ?
10 à 12 heures sans réelle pause. Certains travaillent à la construction des infrastructures du camp, au transport de matériaux lourds, rails, pierres, ou dans des ateliers, menuiserie, mécanique, ou encore au Canada, l'entrepôt des biens pris aux déportés. Il y a également des exploitations industrielles, des entreprises allemandes comme IG Farben ou Krupp qui utilisaient la main-d'œuvre gratuite fournie par le camp pour produire des biens nécessaires à l'effort de guerre nazie.
Les conditions étaient si dures que beaucoup mouraient rapidement, d'épuisement ou étaient tués s'ils devenaient inaptes au travail. Le travail forcé fait donc aussi partie du processus de mise à mort. À Auschwitz, le travail n'est pas un moyen de survie, mais une autre façon de détruire les corps.
Moi, j'ai surtout, pendant plusieurs mois, travaillé, même quand j'ai changé ensuite et que j'étais dans un petit commando en dehors d'Auschwitz, où la vie était tout de même beaucoup moins dure. Le travail était très dur, c'est du terrassement. Alors, on portait des pierres, on portait des rails, on ne savait d'ailleurs jamais à quoi ça servait, probablement à rien. Parce qu'il fallait prendre des grosses pierres, parce que sans ça, on se faisait battre. Mais si on prenait des trop grosses pierres, alors là, on était épuisé.
Par qui les détenus sont-ils surveillés ?
Ils le sont constamment par les gardes SS qui n'hésitent pas à frapper ou tuer ceux qui ralentissent ou tentent de se reposer. Les capots, prisonniers responsables, participent aussi aux violences pour garder leur statut privilégié. Le bloc 11, une prison à l'intérieur du camp, est connu pour les punitions brutales infligées aux détenus.
À Auschwitz, des médecins nazis mènent des expériences médicales sur les prisonniers contre leur gré. Parmi eux, Joseph Mengele, le plus connu, a mené des expériences sur les jumeaux, le nazisme, la génétique, les stérilisations, injections mortelles. Le professeur Karl Klauberg a effectué des expériences sur la stérilisation avec le docteur Horst Schumann.
Quels étaient leurs objectifs ? C'était de mettre au point une méthode d'anéantissement biologique.
Donc ils ont mis en route des expériences pour stériliser des jeunes gens et des jeunes filles. Donc ils ont ouvert un bloc spécial au camp d'Auschwitz pour commencer les essais de cette stérilisation. Et c'est pour ça qu'à la descente de mon convoi, j'ai été choisie parmi les 100 femmes pour servir de cobaye dans ce bloc 10 à Auschwitz.
J'ai entendu parler du camp de Ziegen, mais c'est quoi ?
Le camp de Ziegen à Auschwitz-Birkenau a été créé en février 1943, dans le secteur 2 du camp de Birkenau. Il y eut environ 23 000 Roms et Sinti déportés, venant principalement d'Allemagne, d'Autriche, de Pologne et d'autres pays occupés. Contrairement aux autres parties du camp, les familles étaient regroupées ensemble. Hommes, femmes et enfants vivent dans les mêmes baraquements. Cette exception ne signifie pas une meilleure protection, mais une autre forme de contrôle et d'isolement. Leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles à cause de la surpopulation, le manque d'eau potable, les maladies, typhus, dysenterie. Ils sont sous-alimentés.
Sur les 23 000 déportés, Roms et Sinti, à Auschwitz, seules quelques centaines ont survécu.
Que s'est-il passé la nuit du 2 au 3 août 1944 ?
Le camp de Ziegen a été liquidé. Environ 2900 personnes, principalement femmes, enfants et vieillards, ont été assassinées dans les chambres à gaz. Cette liquidation a marqué la fin de la présence Rome à Auschwitz.
L'année 1944 est la plus meurtrière. À l'est, l'armée russe approche. Les nazis commencent à effacer les traces de leurs crimes et exterminent massivement. En janvier 1945, Auschwitz est évacué. Des dizaines de milliers de prisonniers sont contraints de partir à pied, dans le froid, lors de ce qu'on appellera des marches de la mort. Le 27 janvier 1945, les soldats russes entrent dans le camp et découvrent environ 7000 survivants, malades, épuisés, abandonnés. Auschwitz est libéré. Ce ne sont pas des survivants victorieux qui sont découverts, mais des êtres brisés. Beaucoup ne parlent plus, certains ne survivront que quelques jours après la libération.
Et qu'en est-il des plus d'un million de personnes mortes ?
Pour eux, il est déjà trop tard. Mais au final, c'était quoi Auschwitz et ça servait à quoi ?
Auschwitz, c'est un camp mixte. Les crimes de concentration et d'extermination y sont perpétrés. Il est souvent utilisé pour représenter l'horreur de la Shoah. Parmi les plus d'un million de victimes d'Auschwitz, la grande majorité étaient des juifs. Hommes, femmes, enfants ont été exterminés non pour ce qu'ils avaient fait, mais pour ce qu'ils étaient. Victimes d'une idéologie raciste et antisémite portée par l'État nazi.
Et savoir tout ceci, ça nous permet de faire quoi ? Comprendre le fonctionnement d'Auschwitz-Birkenau, ce n'est pas seulement étudier le passé. C'est aussi réfléchir aux dangers du racisme, de l'antisémitisme et des régimes totalitaires. C'est enfin rappeler l'importance du devoir de mémoire. Comprendre son histoire, c'est refuser l'oubli.
C'était Passeur de mémoire avec Maëlle, Elsa et Romane.